Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier. Les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous 17h07 et là on est en direct sur toutes les plateformes et sur Radio Immo en particulier. Grosse réussite ici le 20 octobre 2021 du RENT où on se retrouve enfin physiquement, plus de 10 000 inscriptions, donc on va dire que c'est plutôt un carton. On vous l'avait dit ce matin dans la programmation, on allait beaucoup parler d'Ayoju, on y est tous. Voilà, on va parler d'un fléau social, je dis bien d'un fléau social qui nécessite une politique offensive, si je peux dire les choses comme ça, un véritable plan Marshall du logement, et je pense que le délégué général de la Fondation Abbé Pierre ne me contredira pas là-dessus. En tout cas, on va parler de ce sujet avec une table ronde dans laquelle on va parler de cette Fondation Ayoju qui, aujourd'hui, travaille au quotidien, même si on ne les voit pas toute l'année avec des actions qui sont des actions parfois de fourmis, où on sent parfois un sentiment même d'impuissance. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut faire quelque chose. Et cette chose, on va le faire collectivement, tous ensemble, bien évidemment. Pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le directeur du Mondial du Bâtiment, Batimat. Guillaume Loiseau est avec nous.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Ça va Guillaume? Guillaume qui est membre du bureau de la Fondation Ayoju. Voilà. On y est entré d'ailleurs ensemble.
Exactement.
Absolument. Merci Guillaume d'être avec nous. On va parler de précarité énergétique. Double peine hein, pour ceux qui sont mal logés. Non seulement ils décrochent au niveau de l'énergie, mais ils décrochent ensuite au niveau du logement. D'ailleurs, dans le rapport des Moulins sur l'expulsion, le premier poste de décrochage avant le loyer, c'est l'énergie. Et ensuite, ça descend. Voilà. Et ensuite, c'est une fabrique qui permet de retrouver ensuite des gens dans des situations de grande précarité. C'est de ça dont on va parler. Un grand merci aussi pour sa présence à Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Voilà, c'est un vrai plaisir de vous avoir, Christophe, toujours avec mon ami Marc-Emmanuel Dufour, qui va prendre le relais de l'animation de cette table ronde. Ça va, Marc-Emmanuel ?
Avec plaisir, mais oui, mais il a plein d'occupations, notre ami Sylvain.
Voilà.
Il part de plateau en plateau. C'est vrai qu'on est très nombreux sur le RENT. Et il y a du monde aujourd'hui.
Ouais, y a
on
beaucoup,
peut pas être de partout.
Il
voilà,
y a beaucoup de monde, mais je tenais absolument à ouvrir cette table ronde avec vous, justement, avant d'entamer cette conférence. D'ailleurs, cette conférence, elle est très intéressante. Elle a lieu dans la salle plénière. Elle s'appelle « De l'économie de la propriété à l'économie des usages ». C'est le principe de propriété revu, justement, sur comment on vit et comment on va devoir vivre tous ensemble. Sur ce plateau, on a le plaisir, et voilà, on ne se quitte plus, voilà,
on
se quitte plus, on passe de plateau en plateau. Le député.
Merci. Merci,
Sylvain. Ça, c'est bon.
Pas encore député, mais pas encore député. Pas encore député.
Ça, c'est bon. Ça.
Il y a encore quelques mois à tenir.
Ça, c'est bon.
Oui.
Voilà. Bon, en tout cas, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, et tout le monde le sait, c'est un ami. Il est aujourd'hui un député connu dans le monde de l'immobilier. Il a beaucoup appris, d'ailleurs, sur ce sujet. Je déplore le fait, effectivement, que sa loi n'ait pas vu le jour, mais il faudra réélire Emmanuel Macron pour le faire, éventuellement.
Exactement.
Député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, Mickaël Nogal est avec nous, président du Conseil national de l'habitat.
Ça va, Mickaël ? Bonjour à tous. Ça va,
voilà. Je laisserai ma place tout à l'heure à Martin Dacieux des compagnons bâtisseurs. L'idée de cette table ronde, c'est de parler de la précarité énergétique, premier facteur de dégradation, finalement, dans la société, et qui emmène tranquillement, finalement, les populations dans un état de désarroi. Avec effectivement la perte de leur logement. Bon, j'ai parlé évoqué par exemple Nicolas Desmoulins, d'ailleurs, je crois, a consulté, me semble-t-il, aussi la Fondation.
Oui, tout à fait, on a beaucoup travaillé ensemble.
Dans son rapport. Ce rapport qui est quand même très, très dur hein, quand on fait sa lecture. Il a des propositions qui sont intéressantes parce qu'encore une fois, on ne peut pas opposer le fait que les personnes arrêtent de payer leur loyer avec, par exemple, des propriétaires méchants qui voudraient mettre tout le monde à la rue. Ce n'est pas vrai. Il y a des petits propriétaires qui parfois ont besoin aussi de vivre grâce à ce loyer. Moi, je vous propose qu'on établisse cette table ronde autour de tout cela. Je laisse la main, si tu veux bien.
Merci, Sylvain.
Je te laisse la main, Marc-Emmanuel. Et je vais céder ma place à Martin Dacieux. Est-ce qu'il est avec nous, Martin Dacieux ?
Voilà, Martin Dacieux.
Les compagnons bâtisseurs. Voilà, les compagnons bâtisseurs. Je vais lui céder mon casque. Venez,
viens
Martin.
Nous rejoindre.
Et je vous souhaite une très belle table ronde. Je serai pour ma part de l'autre côté. En tout cas, merci d'être là. Et merci à Isabelle Larochette aussi pour cette table ronde. Ayoju, on en parlera aussi demain puisque ces deux journées seront consacrées essentiellement à la Fondation. Merci à tous.
Allez,
merci.
À tout à l'heure. Merci beaucoup Sylvain. Donc en effet, Martin Dacieux, vous êtes compagnon bâtisseur, donc vous connaissez le concret sur le terrain de toute la précarité énergétique et vous construisez, vous rebâtissez, vous sauvez le coup à beaucoup de familles sur le terrain dans le concret. Je voudrais juste qu'on prenne le temps d'abord avec notre député quelques mots parce que je sais que vous êtes en timing.
Attendu
et vous êtes
aussi.
Attendu dans la foulée. Vous apprenez beaucoup, comme disait Sylvain à l'instant. quand on est rapporteur comme ça d'un projet de loi et comment on vit ce monde qui finalement nous paraît peut-être à deux vitesses ou avec des enjeux programmés dans le futur avec la loi climat, avec l'environnement à protéger. On a l'impression d'une vraie volonté à court terme, moyen terme, de se protéger au niveau de l'environnement et finalement en même temps de créer peut-être des inégalités. Comment vous ressentez-vous et comment vous avez vécu cette approche de l'immobilier en général et de l'avenir plus en particulier, ou en tout cas des troubles sur un demain peut-être pas évident à gérer, à la fois dans la construction et puis dans le logement et dans les loyers, dans la précarité des logements qui manquent aujourd'hui encore en France.
En fait, on est parti de deux constats assez simples, c'est qu'aujourd'hui, on a des millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques. Donc avant d'être des passoires où on a des factures d'énergie qui sont élevées, c'est aussi des logements dans lesquels le confort est moindre que dans un logement bien isolé. Et donc derrière, vous pouvez avoir des maladies parce que votre logement est mal ventilé, mal isolé. Et donc d'abord, le sujet, il est là, on veut traiter les passoires thermiques. Ensuite, on a un sujet environnemental. L'urgence climatique aujourd'hui, elle s'impose à nous tous. Et quand on voit que le bâtiment, c'est entre 20 et 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, et puis c'est assez partagé dans le monde, il faut absolument qu'on traite cette question. Ce qu'on a fait avec la loi climat et résilience, c'est à la fois apporter des solutions de court, moyen et long terme. Le long terme, parce que si on veut amener tous les Français à rénover leur logement, parce qu'il ne s'agit pas que des propriétaires bailleurs, l'idée c'est d'encourager tous les Français à le faire pour le bien de tous. Eh bien, on a pris des mesures en 2025, notamment l'interdiction de location des passoires thermiques. Et l'idée, c'est que par l'information, par l'accompagnement, par le financement, on apporte des solutions à tous les Français, où qu'ils soient et quelle que soit leur situation aujourd'hui. Et enfin, je terminerai avec un point, c'est MaPrimeRénov. Aujourd'hui, tout le monde connaît MaPrimeRénov, c'est l'ancien CITE. MaPrimeRénov, sa vocation, c'est justement d'apporter des solutions de financement aux Français les plus modestes.
Parce qu'on entend, dire qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov est accessible à tous, selon, en effet, que maintenant, on a élargi l'éventail.
Moins vous avez de ressources, plus vous êtes aidé. C'est
voilà.
Ça le principe.
Mais par contre, il y a certaines aides qui ont complètement disparu ou qui sont sur le point de disparaître avec des équipements nouveaux, tels que les chaudières ou autres. Il y a eu des choses de modifier. On entend beaucoup parler que finalement, il y avait certaines aides qui n'existent plus depuis le lancement de MaPrimeRénov.
Parce qu'en fait, on essaie de rationaliser et d'avoir des aides fiscales qui soient les plus pertinentes possibles. Par le passé, il y a eu des dépenses publiques qui n'ont pas permis des gains de performance. Et donc, il y a des aides qui ont été supprimées. Mais en fait, tout a été revu et refondé dans MaPrimeRénov, qui est à la fois un système beaucoup plus simple et, à mon sens, beaucoup plus juste socialement.
Parce qu'on en profite, vous partez dans 5 minutes. Ouais. Michael Nogal, vous avez eu l'occasion de rencontrer notre ami Christophe Robert.
Bien sûr, à plusieurs reprises. Depuis la loi Elan en 2018, on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais.
Il est très important ce contact aux associations de terrain et à ce curseur, à ce baromètre de la température de la précarité. Comment vous fonctionnez avec ces associations, ces professionnels de terrain?
En tant qu'élu qui s'est spécialisé sur les questions de logement, j'essaie d'être à l'écoute. Christophe Robert me dira s'il trouve que je le suis assez. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un bon travail ensemble. Je suis assez sensible aussi à l'action qui est menée au quotidien par la Fondation. Et donc, quand on parle de logement, là aussi, la Fondation Abbé Pierre est toujours associée. Je suis rapporteur là, de la loi sur la décentralisation et j'aurai l'occasion à ce titre de nouveau auditionner Christophe Robert et la Fondation Abbé Pierre.
Oui, peut-être deux mots si vous permettez.
Bien sûr. Avant que vous partiez, c'est pour ça, je voudrais quand même qu'il y ait peut-être une ou deux réactions.
Oui, dire que oui, je pense que le rapport des moulins, comme le travail fait par Michel Nogal, est incontournable. C'est-à-dire que il faut impérativement qu'on ait des parlementaires qui connaissent le sujet. Autrement, c'est trop compliqué. Et on le voit, on l'a vu d'abord au début du quinquennat, d'ailleurs. La question du logement, elle n'est pas simple. Elle est à géométrie variable. Quand on tire un fil, il y en a d'autres. Il y a la question économique, il y a la question sociale, il y a la question des territoires, il y a la question environnementale, ça a été dit. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui se saisissent de ces sujets pour qu'à l'occasion des projets de loi, il puisse y avoir un travail de qualité. Donc, je pense que ce travail, effectivement, il se fait en bonne entente, en bonne intelligence. Et puis, il faut aussi que les parlementaires, et c'est aussi pour ça, je pense que c'est utile de consulter tous les acteurs, y compris les acteurs sociaux, c'est mesurer aussi jusqu'où ça va pour les personnes. C'est-à-dire comment on arrive à toucher les personnes par ces lois. Je vais vous donner un exemple. je crois pouvoir dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience très forte sur l'utilité d'intervenir sur la question de la lutte contre la précarité énergétique, sur la rénovation thermique. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça l'est. Nous proposions que ça se transforme en prime. La prime Rénov a été faite. Elle embarque beaucoup de monde. Elle embarque beaucoup de transformations. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais par exemple, aujourd'hui, pour les personnes les plus précaires, le reste à charge pour mener une rénovation de qualité, c'est-à-dire une rénovation performante, globale, pas simplement des quelques gestes ici ou là, qui pourra permettre vraiment d'avoir un impact écologique et un impact pour faire baisser le coût du logement pour les ménages pauvres. Aujourd'hui, les 5, 10, 15, 20, 25 milliers d'euros, les ménages les plus pauvres et les très modestes n'arrivent pas à les mettre. Donc ils ne feront pas ces rénovations. Alors nous, à la Fondation Abbé Pierre, on essaie d'apporter un complément, mais ça ne suffit pas. Et on le fait avec les compagnons bâtisseurs, avec d'autres. Donc, par exemple, là, il y a encore du travail. Il faut aller plus loin pour accompagner ces ménages, leur donner les moyens vraiment de pouvoir engager ces transformations nécessaires.
Il y a des idées sur ce terrain-là pour les situations les plus précaires, pour les gens qui ont le moins de revenus ?
Oui, exactement. On travaille notamment sur les propositions de Olivier Sichel, qui est le numéro 2 de la Caisse des dépôts, sur ce qu'on appelle un préavance rénovation. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un reste à charge de 5 000, ne serait-ce que de 5 000 euros ou même de 3 000 euros pour un ménage très modeste qui n'a pas la possibilité de sortir cet argent tout de suite, vous faites un prêt que vous remboursez une fois que vous vendez le bien. Et donc, vous n'avez juste qu'à rembourser les intérêts du prêt tous les mois, ce qui est très peu.
C'est très bien.
Et du coup, à partir du moment où vous vendez le bien, vous pouvez rembourser votre prêt. Donc et ça, c'est à destination des ménages les plus modestes.
Et si, par exemple, on est sur 20 ou 25 000 parce qu'il a fallu changer les menuiseries et qu'on est sur du gros et que finalement, il n'y a pas de plus-value sur le bien, sur la vente de la maison, comment on récupère ? Comment on permet d'accompagner cette famille qui, éventuellement, n'aurait pas la possibilité de faire 20% de plus-value, 20 000 euros de plus-value pour payer l'investissement qu'elle a fait ?
Là, il faut de l'argent.
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, je note qu'on a doublé le budget de ma prime Rénov pour 2022. C'était 1 milliard, on passe à 2 milliards. Et ensuite, pour le prêt avance rénovation, on peut estimer, vous avez raison que ça peut être des situations qui arrivent, mais on peut estimer qu'un logement rénové est un logement qui va mieux se vendre. Donc c'est aussi, la performance
bien
énergétique qui demain va être un critère dans le prix de vente d'un bien.
Et ça fait très peur parce qu'on pense, on n'arrête pas de parler des passoires thermiques.
Tout à fait.
Et donc, voilà. Guillaume, par rapport à ces passoires thermiques, par rapport à cette construction, parce que vous êtes le patron de Batimat, le patron du mondial du bâtiment, interpeller notre député, vous connaissez, vous êtes bosseur, on va pas enlever, vous passez 2 jours avec nous sur le terrain de l'immobilier ici au Rent, on n'a jamais vu quelqu'un le faire comme ça, comme vous le faites. Sincèrement, on sent que vous avez à cœur de bosser vos dossiers. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on est dans un avenir qui est plus préoccupant entre les volontés politiques que l'on a au niveau environnemental énergétique et puis les moyens que l'on a. On sait que depuis 40 ans, on est déficitaire en nombre de logements chaque année et qu'on ne répond pas à la demande. On veut en plus aujourd'hui enlever le béton de partout. Et donc, comment est l'expression ? Je ne sais plus. Enfin, d'ici 8 ans, il ne faut plus...
On artificialiser.
Artificialisation terminée. Ça veut dire quoi ? Si vous avez un lopin de terre, mais ça va exploser.
On ne va pas faire l'inventaire de toutes les petites phrases des derniers jours sur le sujet du logement,
parce que ça a déjà fait
l'objet de beaucoup d'émissions.
Mais
Mickaël voit bien ce à quoi je fais référence.
Mais les passoires thermiques, ça veut dire que dans 5 ans, on ne peut plus les louer. Les loyers vont exploser.
Pour venir au sujet de la table ronde, d'abord, vous avez raison de dire que c'est un des sujets très complexes. Et c'est un sujet où ça demande beaucoup de travail et de détails. Voilà. Alors il y en a certainement d'autres très complexes, mais celui-ci l'est énormément. Et c'est probablement le plus grand défi social et environnemental des 5 prochaines années. Moi, je ne suis pas là pour interpeller, en fait. Hein. Je suis là pour accompagner ou donner d'autres clés de lecture. Voilà. Y a un sujet, c'est que on est tous d'accord avec les constats. Et vous tous, et particulièrement vous, Monsieur Robert, ça fait longtemps que vous les portez, ces constats, et pour ne pas dire combat. Mais soyons honnêtes et objectifs, on n'a pas la bonne vitesse. N'importe quelle personne complètement extérieure au sujet qui prend le problème par une approche systémique d'analyse, d'efficacité, etc., aujourd'hui, ce n'est pas un problème de quantité d'argent public injecté dans cette cause, il n'y en a jamais eu autant. Peut-être pas assez, mais il n'y en a jamais eu autant. Et la France, d'ailleurs, est un des pays en Europe qui investit le plus sur ce sujet en montant d'euros.
D'accord.
Mais posons-nous une bonne fois pour toutes, comme ça se fait dans l'industrie, de l'efficacité de la chaîne de transformation de cet argent public jusqu'au bout. Aujourd'hui, si je simplifie, il y a 2 choses. On dit, il faut plein d'argent public. Et à l'autre bout de la chaîne, on dit aux ménages, rénovez, faites des travaux. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu ? Donc il y a plein de sujets, pour le résumer très simplement. Moi, je pense qu'il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de tiers de confiance dans ce marché. Alors, est-ce que ça doit être l'État ou d'autres? Mais en tout cas, il en faut un. Donc il y a un gros problème de tiers de confiance. Et je ne parle pas que des sujets où on nous a parlé d'arnaques qui existent vraiment, avec des comportements, mais qui restent marginaux. Mais un problème quand même. Ça, c'est la première des choses. Il y a un deuxième sujet. On n'a pas les compétences à la hauteur de l'enjeu. On peut décréter sur un plateau de télé qu'il faut faire 500 000 rénovations l'année prochaine. Il n'y a pas les hommes et les femmes pour le faire.
C'est juste.
Voilà. Donc il y a un sujet de formation, de compétences et de travail avec l'ensemble de la filière. Et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces derniers temps pour simplifier le parcours d'achat en fait, des particuliers et toutes les informations qui remontent. Je pense qu'on n'est pas allé encore au bout du sujet. Je vais vous donner un chiffre très simple. En 2020, parce qu'on ne connaît pas encore en fait, le résultat de MaPrimeRénov21, on ne connaît que ce qui rentre dans le tuyau, 800 000. Mais pas ce qui est en sortie. C'est-à-dire le nombre de dossiers réellement financés. Si on prend les chiffres de 2020, qui sont les seuls disponibles à ce jour, 170 000 demandes, 40 000 dossiers réellement financés à la fin. Voilà, donc si on est...
Un quart.
Voilà, si on est sur les mêmes taux de transformation, ce que évidemment personne ne souhaite, on est loin du compte à la hauteur de l'enjeu. Moi, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas bien ou interpeller qui que ce soit. J'essaie juste d'être objectif et honnête sur le constat. Donc maintenant que les grandes orientations politiques sont actées avec des quantités d'argent public mobilisées qui sont plus élevées qu'avant, je ne suis pas là pour juger si elles sont suffisantes, mais bien plus élevées qu'avant, posons-nous un instant, et en toute objectivité, y compris pour les pouvoirs publics, de l'efficacité de la dépense, le ROI environnemental et social de ce truc-là. Voilà.
Alors, un petit mot, parce que je sais que vous devez nous quitter. Après, on continue ensemble, si vous voulez bien, et on parlera avec notre compagnon bâtisseur. Une réaction, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une volonté politique, il y a un discours politique, et finalement, il y a le concret d'une incapacité, ou en tout cas, quand il n'y a pas le personnel suffisant, les artisans en nombre, pour construire autant de logements qu'il nous le faudrait dans l'année, en fait, c'est une réalité de fait. C'est quoi demain? Alors, il peut y avoir une volonté politique, mais finalement...
Alors, dans les faits, on voit que ça évolue et ça évolue très vite. MaPrimeRénov, je peux le dire aujourd'hui, c'est 450 000 dossiers qui ont déjà été financés. On vise entre 700 000 et 800 000 à la fin 2021, mais on a passé le cap des 450 000 financés. Ensuite, sur l'accompagnement, c'est un vrai sujet. On a créé dans la loi climat et résilience la fonction d'accompagnateur Rénov. En fait, l'idée, c'est d'avoir un professionnel qui vient vous voir chez vous. Et à partir des documents tels que le diagnostic de performance énergétique ou l'audit, eh bien, une personne agréée par l'État, donc qui sait faire, qui a les compétences, dont le professionnalisme a été vérifié, eh bien, vous allez être guidé, notamment pour l'accès aux aides. Parce qu'il y a les aides d'État, on parle aussi peu des aides des collectivités ou d'Action Logement.
Bien sûr.
Les C2E, ce sont les acteurs privés qui financent aussi une partie de la rénovation énergétique. Donc on essaie de mettre, en fait, plusieurs subventions d'origine diverse dans un même paquet, et ce même paquet, il va être à destination des ménages les plus précaires pour justement prendre en charge le plus possible. Et quand il y a un reste à charge, j'évoquais tout à l'heure la question des prêts, et on doit réfléchir à d'autres possibilités de financement. On va être honnête, tout ne peut pas venir de la dépense publique. Ça a été dit, la dépense publique, elle a beaucoup augmenté sur la question. Il faut que peut-être ça vienne un peu plus aussi du privé, que ça vienne des établissements bancaires, mais de manière intelligente et à chaque fois pour permettre à chacun... Enfin, moi, je ne veux pas que la rénovation énergétique, ce soit un obstacle pour les Français. Au contraire, ça doit être une opportunité de mieux vivre dans son logement.
Bien sûr.
Si possible, de faire des économies, mais il faut faire attention aussi sur le discours. Vous allez absolument faire des économies en fonction de l'usage de votre logement. Ce n'est pas toujours le cas. Mais la notion de confort, la notion de bonne santé dans le logement, et puis la valeur patrimoniale que peut prendre un logement quand il a été bien rénové. Ça, oui, c'est important.
Une dernière chose, parce que vous allez nous quitter.
Ouais.
Dites-nous, est-ce que vous avez un petit mot sur ce qui va être mis en place par rapport aux factures d'électricité qui sont énormes, par rapport aux gaz qui sont énormes? Qu'est-ce qui va être mis en place, là? On nous dit cette semaine.
Oui, mais ça, je ne peux pas encore vous dire. Ça va être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais en tout cas, on essaie là aussi d'utiliser les outils les plus adaptés. Vous connaissez le chèque énergie qui est envoyé à des millions de Français. On réfléchit à comment pallier à cette hausse des prix de l'énergie. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on est très vigilant, et l'État, là, pour le coup, va intervenir rapidement et vite et bien sur la question du risque de baisse du pouvoir d'achat.
Merci, Michael Nogal. Merci beaucoup. Dites-nous.
Tous ensemble pour I Love You.
Allez, merci. Il a porté le badge tout au long de la journée. Il est encore là demain. Et merci. Non, il fait le boulot. Il fait le boulot, il assure.
Merci à tous.
Allez, merci beaucoup. Merci. Bonne suite. On continue. Notre compagnon bâtisseur, Martin Dacieux. Au quotidien, vous travaillez ensemble avec, la Fondation Abbé Pierre. C'est quoi votre investissement ? Les compagnons bâtisseurs, c'est de la solidarité, c'est du bénévolat, c'est de l'engagement. Racontez-nous un peu votre quotidien. Qu'est-ce que vous y faites au sein des compagnons bâtisseurs ? Isabelle Larochette vient de nous rejoindre de la Fondation I Love You.
I Love You.
Voilà. Merci. Pour rappeler les compagnons bâtisseurs, peut-être présenter l'objet. Nous, on intervient à destination des familles précaires en situation de mal logement. Et peut-être l'enjeu, c'est vraiment la démarche qui est innovante, qui vise en fait à promouvoir l'auto-réhabilitation accompagnée. Qu'est-ce que c'est ? C'est partir du principe que les habitants peuvent réaliser une partie des travaux eux-mêmes et que, par contre, au regard de cette démarche, il y a un enjeu à sécuriser, à accompagner d'un point de vue technique, administratif, financier et social pour pouvoir engager deux bénéfices. D'une part, faire diminuer le reste à charge,
c'est
un apport en industrie réalisé par les habitants. Et le deuxième sujet, qui est même le plus fondamental, qui est vraiment l'enjeu social. C'est qu'à travers la rénovation du logement, se pose la question de la remobilisation des habitants. On parle de précarité énergétique, mais voilà, nous, on intervient sur tout type de mal-logement, de sortie d'insalubrité, de logement indigne. Et à ce titre, on travaille de pair avec la Fondation Abbé Pierre, qui nous soutient d'un point de vue financier. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du reste à charge, qui est fondamentale. Nous, aujourd'hui, on porte toute une ingénierie administrative et financière pour pouvoir trouver, via les fondations, via I Love You, via la Fondation Abbé Pierre, via les aides publiques, des plans de financement. À ce titre, je pense qu'il y avait un sujet qui est important, qui est, je rebondis un peu sur ce qui a été dit, mais question de l'accompagnement, et notamment en lien avec le rapport Sichel, est fondamentale. Et nous, on intervient sur ces enjeux d'auto-réhabilitation accompagnée, sur de l'accompagnement renforcé avec les familles, pour pouvoir, d'une part, favoriser la sortie, on va dire, des projets d'amélioration de l'habitat, mais également soutenir sur la longue durée, parce qu'on est sur des situations très complexes, ces familles dans l'amélioration du cadre de vie.
Qu'est-ce qui vous motive comme ça ?
Alors, je pense que nous, l'enjeu du mal-logement, il est partagé en France. Hein, et je pense que les constats de la Fondation Abbé Pierre fait qu'aujourd'hui, il y a un travail de militance à avoir sur le terrain. Et forcément, ces conditions sont forcément à je ne sais pas comment l'exprimer, mais à résoudre. Et donc voilà, l'habitat se joue au niveau de l'habitat énormément de choses. Et je pense que la question de l'entrée-logement, et l'amélioration du cadre de vie fait vraiment avancer énormément de sujets. Je pense que le rapport de la Fondation Abbé Pierre est très intéressant, mais il y a énormément de choses qui se jouent, le rapport à l'intimité, à la convivialité, et ces situations, lorsqu'on les améliore au quotidien, font jouer beaucoup de choses. Voilà.
On a évoqué dans la journée, plus tôt dans la matinée aujourd'hui, que finalement les nouvelles constructions, les promoteurs d'aujourd'hui ouvraient tout sur le salon. Et tu avais la cuisine qui était ouverte, il n'y a plus de couloir. Et finalement, en fait, le salon qui doit être une pièce de vie, de repos, devient un couloir, devient une pièce intermédiaire. Et finalement, il y a toujours des bruits dérangeants pour ne pas vivre pleinement dans un intérieur. Alors, sous couvert d'une ouverture aux autres et d'un vivre ensemble, finalement, on en oublie que le salon peut être une pièce à part. Enfin, c'est dans cette qualité de vie en interne. Guillaume, par rapport au rapport de la Fondation Abbé Pierre, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette précarité énergétique, par rapport à cette dégringolade? C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quand l'habitat en lien avec la précarité sociale de la famille qui loge dans un appartement qui a besoin de gros travaux, ça mine le moral de la famille, il y a des tensions, on enlève parfois des gamins d'une famille parce qu'on ne peut pas les laisser dans un milieu insalubre. On était avec Action et Enfance, on n'est pas là par hasard avec la Fondation I Love You en train de soutenir des projets d'Action et Enfance parce qu'il y a des situations précaires où des enfants vivent malgré eux, parce que ce n'est pas les adultes responsables, ce sont les enfants qui subissent. De ce rapport, qu'est-ce que vous en tiriez pour rebondir et apporter de votre énergie, parce que je sais que vous avez un petit côté vision comme ça, un pifomètre.
Et j'ai non, toujours visionnaire, apprécié... tu visionnaire, peux dire,
ouais,
visionnaire,
ouais. Tu peux. Mais c'est, voilà, mais qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture de ce rapport ?
Ce que j'ai ressenti des différentes sessions, des rapports de la Fondation, parce que ça existe, en tout cas moi ça fait quelques années que je les lis, je ne connais pas la date du premier, mais j'ai beaucoup appris en les lisant, beaucoup d'informations. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, développement du patrimoine, gain à la revente, etc. Là on est là pour parler de la précarité énergétique. Donc si on veut définir le périmètre de ce qu'est la précarité énergétique, c'est 5 millions de ménages, plus de 12 millions de personnes. La majorité d'entre eux correspondent aux ménages les plus modestes, c'est-à-dire le quartile qui gagne le moins d'argent. Ce sont pour la majorité des propriétaires occupants, donc on dit beaucoup de choses sur les méchants bailleurs, etc. Évidemment qu'ils existent, mais sur le sujet de la précarité énergétique, ce n'est pas ce profil-là le plus important en nombre, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet. Donc ça, c'est un premier point. Donc les gens qui sont dans ce cas-là, on en connaît tous, nous on ne l'est pas, mais on en connaît tous, ils ne sont pas préoccupés par le gain à la revente du logement ou l'amélioration du confort ou de la domotique de la maison. Hein. Ils sont loin de tout ça. Ce n'est pas leur sujet. En tout cas, pour l'instant, on leur souhaite que ça le devienne demain, mais ce n'est pas leur sujet du moment. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a aujourd'hui, Sylvain a parlé en tout début de démission, de double peine. C'est une triple peine aujourd'hui. Parce qu'il y a un rapport qui est clairement établi, scientifiquement éprouvé, que les ménages qui sont dans ces problématiques de précarité énergétique sont des ménages avec des profils de santé beaucoup plus exposés à un certain nombre de maladies. Donc le lien est directement établi entre un certain nombre de pathologies. Il n'y a pas que de la qualité de l'air, ça en fait partie, mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a la santé mentale et psychique,
bien sûr.
Et ce n'est pas un détail. Et donc ce lien est clairement établi. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'urgence sociale et environnementale. Il faut arrêter de parler de ce sujet si on parle de la précarité énergétique comme quelque chose qui serait bien de faire pour la planète, pour décarboner quand on aura le temps à la vitesse pour le faire en 2050. Voilà, c'est là que ça joue. Il y avait un engagement qui était pris sur les trois dernières années, pardon de prendre un peu la parole longuement.
Non,
qui était pris sur les trois dernières années, qui était de rénover 15% des passoires énergétiques. On est à la moitié de ce rythme-là, et donc, d'ailleurs la Fondation Abbé Pierre a écrit qu'on serait à l'objectif qui était fixé, qui était que de 15%, mais déjà ambitieux, on n'y sera qu'en 2027. Je veux dire un terme, quelque chose de très simple que tout le monde est capable de comprendre. On ne pédale pas du tout à la bonne vitesse. Il faut mettre un moteur électrique et les plus puissants du marché, là. Donc c'est un plan, pour le coup, vraiment Marshall, mais au sens de la vitesse. Qu'est-ce qu'on fait dans les 5 prochaines années ? Donc à l'heure où beaucoup de gens réfléchissent et vont promettre des choses pour les 5 prochaines années, c'est simple, c'est 1 million par an.
Mais alors Christophe, vous allez réagir, mais je fais juste une aparté. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on met la barre très très haute, mais finalement les RT 2020, elles ne font qu'être décalées.
C'est juste pour le 9 la RT.
Oui, c'est pour le 9, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui dans la construction, à tout niveau, dans la construction, dans la rénovation, on ne fait qu'avoir des envies et des paliers très hauts, mais finalement on ne fait que reporter, décaler. Et pour peut-être reporter le problème, parce que quand finalement on n'a pas les moyens...
On ne reporte pas ou on ne décale pas par volonté, ni politique, ni des acteurs privés. Pour le coup, moi je les côtoie tous, c'est l'objet de mon métier, donc j'entends en fait tous les sons de cloche. C'est pas une démarche intentionnelle. Ce qui manque, c'est une démarche où des personnes qui sont capables d'incarner et de porter quelque chose qui rassemble tout le monde, où on aligne toutes les actions des uns et des autres, voilà, autour d'un même objectif. Et comme on a du mal à faire ça... tout se disperse, y compris une partie de l'agent public, et ça questionne l'efficacité de la chaîne de valeur de ce sujet. Voilà.
Ouais, Christophe, vous rejoignez Guillaume.
Ouais, beaucoup. Alors, en même temps, il cite le rapport, donc non, mais il y a beaucoup de choses que je partage. Enfin, c'est un enjeu considérable, on l'a dit, d'un point de vue social, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. Le problème que nous avons, c'est la même chose sur le volet de la construction, de la production, et on a dit tout à l'heure qu'il y avait un manque de logement dans un certain nombre de territoires dans notre pays. C'est que le stop and go, le manque de vision, le manque de continuité de l'action publique fait que la capacité d'agir ne se construit pas par sédimentation pour être à un moment, je ne sais pas quand, en état d'atteindre ses objectifs. Et donc, il faut impérativement que nous tous, mais je sais qu'on partage beaucoup d'analyses, mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire les acteurs du logement puissent être entendus par les responsables politiques, tant sur la production que sur la rénovation, que sur la lutte contre la précarité énergétique, pour dire ce qu'on vous dit. C'est pas politique au sens idéologique, c'est la vérité. C'est la vérité des marchés immobiliers, c'est la vérité de l'impact que peut avoir les passoires thermiques sur l'émission de gaz à effet de serre. C'est la réalité de la violence que produit la précarité énergétique sur le quotidien des ménages. Et effectivement, pas que sur le plan sanitaire, sur le plan aussi psychique, sur l'isolement social, sur le fait de pouvoir faire que les gamins puissent faire leur devoir dans de bonnes conditions, la vie du couple, la vie de la famille, la vie des fratries. Bref, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire, ok, ça c'est un enjeu majeur, on va construire tant, on va rénover tant, et on va construire la capacité d'agir. Il faudrait sans doute multiplier par 4 les capacités d'intervention par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais si on fait du stop and go, si on dit, moi j'ai entendu des candidats, là je ne vais pas citer, ce n'est pas l'objet, dire, si jamais je suis élu, la loi énergie-climat, je mets tout par terre parce que, non, diable. Ayons une vision, organisons-nous collectivement, mettons toutes les forces de chacun pour pouvoir arriver à ça. Ceci dit,
mais ne pas faire demi-tour, quoi, déjà.
Absolument. La continuité. Mais vraiment, parce que, par exemple, pendant 3 ans, si vous ne construisez pas, vous cassez l'appareil de production.
Bien sûr.
Et c'est la même chose dans la rénovation. Bon. Et on l'a vu. Par contre, juste un point.
La situation du Covid n'a peut-être pas non plus aidé.
Oui,
la construction, tout était bloqué. Il y a un an et demi, on ne construisait plus.
Oui, mais...
Pas en rénovation. Alors, pour le coup, je côtoie ces gens-là tous les jours. Je peux vous dire que l'activité des artisans et de l'industrie sur les marchés de la rénovation, ils sont en croissance à 2 chiffres sur l'année dernière. Donc le neuf, c'est un autre sujet, mais la rénovation se porte très bien.
Juste un dernier point. Ce que je voulais dire, c'est que je partage totalement donc, cette idée de se mettre en capacité d'atteindre nous-mêmes les objectifs et de le faire le plus rapidement possible, mais de sédimenter pour y arriver. Ceci dit, il y a la question sociale quand même. C'est-à-dire ce que nous faisons avec les compagnons bâtisseurs, ce que font un certain nombre d'associations ou d'acteurs publics locaux. Hein, parfois, c'est des départements qui sont mobilisés, des villes qui sont mobilisées, et on a besoin d'eux. Vis-à-vis des ménages les plus précaires, notamment propriétaires occupants qui ont hérité d'un logement il y a 40 ans, qui n'ont pas pu entretenir, la toiture est défectueuse, je ne vous parle pas du chauffage, on se chauffe avec un poêle, bref. Là, ça ne passe pas. C'est-à-dire, dans les conditions actuelles de ce qui a été mis sur la table, ça ne passe pas. Donc ça ne se fera pas. Ça se fera à la marge, pour ceux avec qui ça sera à peu près possible. Et là, on n'arrive pas à être entendu. Donc je pense qu'il reste encore une zone d'ombre, une espèce d'impensé ou un trou dans la raquette, je ne sais pas comment on peut le dire. Là, encore une fois, pourquoi c'est essentiel? C'est ici qu'on pourra avoir le plus gros impact social sur la facture des ménages. Nous, quand on intervient avec des rénovations globales auprès de ces ménages, on fait baisser 900 euros par an, par unité de consommation, les factures. Et quand vous avez des petites ressources, 900 euros par an, c'est énorme.
Mais mon Dieu.
Et c'est là où vous limitez encore davantage les émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Donc, il y a quand même une petite question sociale. Ce n'est pas parce que c'est la Fondation Abbé Pierre qui parle. Je pense que c'est vrai aussi dans la prise de conscience collective. On va y arriver. Je pense que tout est aligné pour qu'on arrive à faire prendre conscience de cela.
C'est pas de l'utopie ?
Non, pas du tout.
Non, c'est de l'envie. Je veux bien croire, c'est de l'envie.
Non, on y arrivera. On y arrivera. La sensibilité. Il y a 10 ans, je ne l'aurais pas dit ça. Aujourd'hui, la sensibilité est là. Il y a un moment où, à force de marteler, je pense que ça rentre dans les...
Et pourtant, les chiffres de la précarité ne font qu'augmenter.
Oui, mais la sensibilité à ces sujets-là a aussi évolué. C'est-à-dire que ce qui détermine la précarité, les 12 millions de personnes dont vous parliez tout à l'heure, c'est des indicateurs croisés. C'est-à-dire le taux d'effort que l'on dépense par rapport à ses ressources pour se chauffer. C'est le sentiment d'avoir eu froid aussi. Bref, et donc il y a eu aussi une prise de conscience. Vous savez, la question du baromètre, elle est compliquée. Là où il y a un sujet qui vient percuter cette évolution, j'espère positive dans la société française sur ce sujet, c'est le coût de l'énergie. C'est-à-dire que là, pour le coup... C'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous prenez 12% d'augmentation, puis 10% d'augmentation, puis 5% d'augmentation, pour quelqu'un qui a 1200 euros, 1300 euros, c'est un SMIC net, hein. C'est pas quelqu'un qui est en situation de pauvreté, c'est quelqu'un qui bosse au SMIC net. Ben, quand vous prenez ces 10%, ces 5%, c'est énorme dans le budget. Alors, pour celui qui a plus de ressources, ça fait pas grand-chose, objectivement. Mais pour ceux qui ont des petites ressources. Et là, c'est sûr que si on continue comme ça sur les marchés de l'énergie... On va vers des lendemains difficiles, d'où la rénovation thermique.
Pourtant, on lit chaque jour que dans 10, 12, 15 ans, l'électricité, c'est plus 300%, c'est 1x3.
Oui.
On dit que, voilà...
Raison de plus pour rénover massivement pour ces ménages.
Mais ça veut dire que, mon Dieu, mais les passoires thermiques, comme on dit...
En 10 ans, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, ou en tous les cas, on ne pourra plus les louer. On parle de loyers qui vont continuer à augmenter, qui vont... Enfin bon, ça fait parfois peur.
Oui.
Ça fait parfois peur. Oui. Est-ce que vous avez la sensation, et il n'est pas là notre député, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, d'être accompagné, d'être écouté, d'être suivi dans vos recommandations
sur ce sujet, sans doute plus que d'autres, même si on n'est pas au bout en ce qui concerne les ménages précaires.
Guillaume, un mot ? Tout est à faire.
Non. Moi, j'ai décidé d'arrêter de me poser la question. Est-ce qu'on va y arriver dans 10 ans? En fait, ça sert à rien. Et puis sinon, on peut soit se démoraliser, soit être dans l'utopie. Donc, je pense que l'important, c'est d'être en mouvement. J'ai aussi cette impression, c'est un sentiment, parce que je ne sais pas le mesurer et le rendre factuel, que le sujet, quand même, en termes de prise de conscience, a monté de quelques crans ces 10 dernières années. Évidemment, pas suffisamment, mais il y a quand même des choses qui se sont passées. Moi, je voudrais attirer aussi votre attention sur un point, c'est que le profil des gens qui sont en précarité énergétique aujourd'hui, ils ont plus de 60 ans. c'est des gens qui, pour être propriétaires de leur logement, se sont endettés sur 10, 15 ans. Autrement dit, ils n'ont plus d'emprunt à payer à la proximité de l'âge de la retraite ou en retraite. On sait très bien que ceux qui empruntent aujourd'hui, ou qui l'ont fait il y a 10 ou 15 ans, quand ils sont en retraite, et je ne parle même pas de l'allongement de la durée du travail, prenons la date du départ en retraite moyenne d'aujourd'hui, ces gens-là n'auront pas soldé leur emprunt. Mécaniquement, puisqu'ils empruntent plus de 25 ans ou plus aujourd'hui. Donc, si vous dites l'énergie, elle prendra 300%, j'en sais rien si elle prendra 300%, mais retenons cette hypothèse, que ces gens-là auront toujours une charge en fait, d'emprunt immobilier au moment où ils seront en retraite, qu'ils auront une petite retraite ou une retraite qui sera bien inférieure à leur salaire moyen des 10 dernières années, etc., etc. Le niveau d'exposition et de charge, et donc le reste à vivre de ces gens-là, c'est pas du tout le même que ma grand-mère aujourd'hui.
Alors je vous remets une couche, quand on évoque l'impôt qui pourrait remplacer le foncier, qui pourrait remplacer la taxe d'habitation, à savoir que finalement, vous êtes propriétaire, vous ne payez plus de loyer, mais vous auriez une taxe qui pourrait correspondre à un loyer. Ils nous font le coup, tous les 2-3 ans, ils nous évoquent cette idée.
Ça fait 15 ans.
Ça fait 15 ans. Bon, ça passera jamais, c'est ça? Allez, voyons bien les choses positivement.
Non, mais je ne sais pas, peut-être que
il y a 2-3 autres sujets sur le feu en ce moment, je pense qu'ils vont mettre...
Ah bon. Compagnon bâtisseur, est-ce que sur le terrain, dans la précarité énergétique, j'ai déjà moi ressenti sur le terrain que malheureusement c'est quand on est les pieds dans la merde qu'on se serre les coudes et qu'on regarde son prochain dans un monde très individualiste, mais finalement je sais aussi que dans des logements insalubres, c'est dans la copro tous les locataires, pas dans la copro spécialement ou dans la copropriété s'ils sont propriétaires, ils sont solidaires les uns des autres. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que vous le vivez également?
Sur les actions, la solidarité dans les copropriétés?
Oui.
Privées?
Oui.
Alors ça dépend, mais là c'est un vaste sujet. Si on parle des copropriétés dégradées, non. Moi je trouve qu'il y a un enjeu aussi de peuplement de ces copropriétés avec des marchands de sommeil qui les ont investis. Et aujourd'hui, non, je pense qu'il n'y a pas du tout de solidarité sur ce type d'ensemble immobilier qui sont très fortement dégradés. Après, on peut retrouver, nous, sur certaines copros, peut-être plus petites, une certaine... On va dire
parce que vous parliez de faire soi-même des travaux, oui, pour que la facture soit moins chère. Dans les copros, on a quand même des exemples de gens.
Alors, il y a des enjeux. Je reviens sur la question des travaux. Nous, aujourd'hui, on intervient massivement sur... on a parlé des propriétaires occupants, qui est un des enjeux, nous, qu'on a clairement ciblé sur la précarité énergétique. Il est clair que l'habitat individuel est un des enjeux, aujourd'hui, en France. On travaille sur l'auto-réhabilitation avec ces personnes-là. Et c'est vrai que la question des restes à charge, qui sont toujours trop importants, permettent d'être lissés avec cet apport en industrie. Moi, je vais revenir sur la question des copropriétés. Il y a des enjeux, toujours, mais par contre, les travaux de rénovation énergétique vont porter sur le bâti, et c'est vrai que lorsqu'on analyse un petit peu le statut d'occupation de ces personnes, on est quand même sur beaucoup de locataires, et que souvent, sur ces copropriétés qui partent à volo, il y a très peu de propriétaires occupants, et donc c'est aussi à comment on fait médiation avec les propriétaires bailleurs pour pouvoir imposer les travaux qui sont nécessaires, et du coup, c'est tout un travail de persuasion qui est mené par les compagnons bâtisseurs. Et juste un point sur lequel je voudrais revenir tout à l'heure, on a parlé que ces impératifs de rénovation énergétique, ils nécessitent aujourd'hui de faire appel à beaucoup d'entreprises sur le terrain. Il y a des enjeux très importants. Et on voit aujourd'hui, l'ADEME a sorti une étude qui disait qu'un Français sur trois réalise aujourd'hui des travaux en auto-rénovation. C'est une pratique culturelle, alors mixte, avec forcément des entreprises qui viennent sur des postes plus techniques. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'auto-rénovation est un sujet à prendre en compte pour faire accompagner les politiques publiques, parce que c'est aussi en soi une action qui peut être complémentaire des actions en faveur de l'amélioration de l'habitat qui peuvent être guidées. Donc c'est aussi ça, je pense aussi à voir quels pourraient être les chemins différents, complémentaires, pour pouvoir tous ensemble résoudre cette problématique.
On a longtemps évoqué que quand même les grands distributeurs de matériaux prenaient parfois la marge de l'artisan. Il y a eu des grands discours comme ça pour des particuliers qui faisaient eux-mêmes des travaux. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de dire, ben, finalement, pour avoir des grosses centrales d'achat, mais par par l'État, par de mise à disposition pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire sans non plus faire le jeu des distributeurs classiques de matériaux, c'est-à-dire d'avoir peut-être des matériaux de sortie de l'usine payés par l'État, avancés par l'État pour le concret, je sais pas, c'est une pensée, mais de dire comment, parce que très souvent on a vu des prix de matériaux exploser. Comment on accompagne aussi la rénovation énergétique quand on a des matériaux qui vous explosent et qui prennent 50%, 60% en 6 mois de temps, parce que c'est bien la réalité. Une planche de coffrage qui était à 40 balles pour te refaire ton... Non mais c'est la réalité, elle a doublé. Le bois a doublé en 6 mois. Donc vous prenez n'importe quoi comme matériau aujourd'hui, c'est une explosion dans le budget. Donc je me dis, à un moment, est-ce que si on a des moyens, quand on ne sait pas l'argent, le transit pour aller jusqu'à l'étape finale, est-ce que dans ce créneau-là, il n'y a pas peut-être la place pour dire, mais finalement, l'État va canaliser ou mettre à disposition, selon les revenus, j'en sais rien, on fait bien des chèques énergie pour payer le gaz, est-ce qu'on n'aurait pas des chèques matériaux pour refaire soi-même dans les copros, ou je sais pas, c'est une idée comme ça, mais c'est dur à mettre en place. Hein.
C'est assez organisationnel, c'est comme modèle de société.
Non mais je sais pas.
Peut-être mais pas c'est... l'État, mais ouais. C'est vrai que ça fait penser à des modèles, par exemple, qu'on développe dans les quartiers populaires sur la question de l'alimentaire. Pourquoi des personnes modestes ou pauvres dans les quartiers populaires n'auraient-ils pas droit au bon, au bio, et on fait des coopératives d'achat groupées pour faire baisser les prix et permettre, avec un engagement, hein, donc il y a aussi une logique de participation, mais je pense pas que ça soit forcément l'État. C'est-à-dire que je pense que ça peut s'organiser localement avec des acteurs. Sur la question de la rénovation, ça peut être avec les compagnons bâtisseurs, une collectivité.
Il y a plein de modèles de coopératives. Hein,
oui, c'est ça. Dans des logiques de coopératives pour faire baisser les prix, parce que c'est un vrai enjeu, par contre. Après, dire est-ce que l'État doit faire ça? Bon, on peut changer de modèle, hein, mais on peut administrer tout.
Si l'abbé Pierre a monté tout ça.
Ouais, mais enfin, l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, et comme fait la Fondation, on agit nous, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans cet état-là. Il faut les accompagner, il faut leur tendre la main, il faut leur aider, mais il faut essayer de comprendre aussi pourquoi on en est là. Parce que autrement, on sera toujours prêt à courir les marchés ou prêt à courir les insuffisances de la protection sociale. Donc il faut jouer sur les deux. Mais là, ça peut être de l'organisation locale, je pense, qui peut être dans ce sens.
De proximité.
Oui. Ouais. Sur la question sur la question des matériaux, juste, nous, aujourd'hui, on développe notamment des plateformes d'économie circulaire qui nous permettent notamment de favoriser le réemploi.
Voilà.
Et les compagnons bâtisseurs, c'est l'apport en industrie des habitants et le réemploi des matériaux. Et je pense qu'il y a aussi un gisement super important aujourd'hui sur le réemploi, sur la déconstruction, et ça va en lien avec l'enjeu environnemental qui est associé au bâtiment. Quoi.
Merci beaucoup, amis compagnons. Merci, Martin. On va terminer cette table ronde, et on vient de parler de l'abbé Pierre. Et Isabelle, merci d'avoir organisé tout ça avec Sylvain.
Ben, je suis ravie.
Et puis, la Fondation Elogio, ben, c'est 8 ans d'un travail phénoménal avec un résultat incroyable.
Oui, mais grâce aussi à toute l'équipe de personnes qui œuvrent tous les jours, et puis grâce à nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible.
Tous les pros de l'immobilier qu'on remercie parce qu'ils sont là aujourd'hui sur le RENT et chaque année présents.
Voilà, on les remercie, puis on va aller les re-solliciter demain, hein, parce qu'on n'a pas fini, on est là pour ça.
Christophe Robert, il y a une petite surprise pour vous.
Voilà, alors donc la Fondation Abbé Pierre, c'est une histoire pour moi très importante parce que ça a commencé comme ça, finalement, avec Agence Solidarité Logement. Maintenant, je te parle de ça il y a 10 ans, je pense, où la Fondation Abbé Pierre était notre partenaire et on reversait les premiers fonds collectés par Agence Solidarité Logement.
Oui, parce qu'avant que la Fondation Elogio n'existe, pour vous dire, Isabelle Larochette est agent immobilier et elle se dit, tiens, finalement, de nos commissions d'agent immobilier, on pourrait mettre 1%, 2%, 3% dans une caisse commune et en faire profiter une structure qui œuvre pour le mal logement ou pour le mieux logement. Et en l'occurrence, donc à l'époque, c'était pour la Fondation de l'Abbé Pierre.
Voilà. Et donc, en fait, voilà, on est un peu nostalgique. Et moi, je me disais, je suis énormément la Fondation Abbé Pierre parce que pour moi, c'est respect et chapeau bas. Et je vois les difficultés rencontrées suite au confinement où c'est vraiment tout ça s'est accentué et on voit les messages qui sont diffusés. Et on s'est dit, toute l'équipe d'Elogio, on s'est dit, normalement, comme ça, voilà, c'est légitimement qu'on a envie d'aider la Fondation Abbé Pierre. Alors, c'est une petite goutte d'eau, hein, mais Christophe, on va te remettre un chèque de 15 000 euros de la part de la Fondation Elogio et de l'ensemble des partenaires. Et puis, j'espère que ça contribuera à aider un peu les familles, de vous aider, en fait, dans votre travail au quotidien, en tout cas.
Ben merci beaucoup, c'est pas une goutte d'eau, on en fera bon usage, il y a des besoins, c'est sûr. Et ça fait plaisir de savoir qu'au fil de 10 ans, en fait, il y a ces échanges-là entre fondations, pour le coup.
Oui.
Et je voudrais juste dire, effectivement, que la période a été difficile sur le plan alimentaire, sur le plan du logement. On n'a jamais vu à quel point le logement, alors nous, on le savait tous autour de cette table, mais à quel point il est déterminant quand on disait aux gens « Restez chez vous ». Ben oui, mais moi, si j'ai pas de chez moi, si j'ai pas de logement, où on disait « Restez chez vous, oui, mais si c'est le logement qui rend malade parce que justement on est dans la précarité énergétique, on s'est pris quand même des claques dans la figure à cette occasion-là. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, mais aussi des besoins considérables. Donc du fond du cœur, au nom de toute la Fondation, un grand merci à la Fondation, à Elogio.
Merci beaucoup.
Ça fait vraiment plaisir, sincèrement.
Eh bien voilà, il est là, ce chèque, il est grand, hein, c'est un grand chèque, c'est 15 000 euros.
Je vais le faire dans le métro.
Alors on va le poser ici, voilà, mais c'est symbolique. Isabelle, un grand merci pour le boulot effectué au quotidien. Tu es bénévole, une présidente bénévole acharnée depuis maintenant une quinzaine d'années.
Oui, mais encore une fois, c'est un travail d'équipe, et je le dis parce qu'ils sont là et que voilà, Marie bien évidemment, et Marie, on peut vraiment lui faire une ovation spéciale parce que vraiment elle se donne. Et puis il y a Jean-Luc qui est toujours mon fidèle compagnon solidaire, et on fait des choses, voilà, et on adore. Et le plus important, c'est ce que je disais à Christophe Robert tout à l'heure, pour nous, la difficulté c'est de collecter, on le sait, hein, ça devient de plus en plus difficile, mais quand on remet le chèque, finalement, c'est le plus beau moment, c'est-à-dire que là, on concrétise les choses et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a mis en avant, ben voilà, se concrétise, et puis que vous en fassiez bon usage, en tout cas, et que vous redonniez le sourire à certains des gens les plus démunis, en fait.
Appropriez-vous les œuvres de votre fondation, Amis de l'immobilier et du bâtiment, Amis constructeurs, c'est votre fondation et ce sont vos projets. Appropriez-vous cette réussite et faites-en bon usage de ces 15 000 euros.
Ben, vous pouvez compter sur nous.
Merci Christophe.
Merci à
Guillaume.
Tous. Merci.
Merci Martin. Merci Isabelle. À bientôt.
À bientôt.
Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier. Les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.